I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans l'EFC Stream Team. 22 octobre, 12 novembre. Ces deux dates sont celles qui marquent notre séparation et nos retrouvailles avec Martin. Pendant ces semaines, nos chemins se sont éloignés. 3 semaines que j'ai passé à travailler durement avec un stylo à la main. Martin, lui, il a tenu autre chose entre ses mains pendant ces 3 semaines, une fourchette, peut-être même une louche. Je vais être honnête, j'avais rien vu au premier abord. Sans doute ma vue était barrée par ses tenues hivernales et donc ample. Et puis on est allé manger. Pas de burger, pas de salade, non, juste une petite cantoche des familles. On est arrivé devant les plats principaux. Martin a commencé à regarder les ribs, les raviolis. Et puis patatras, il s'est rabattu vers le poisson. Ouais, du poisson. Rien à voir avec le vendredi, mais plus avec sa balance, paraît-il. Poisson pané, certes, mais il n'a pas eu de choix, il y avait de la panure partout. Et puis il a pris des légumes. Avec de la sauce, lui a demandé le cuisinier. Non, a-t-il répondu. Des trémolos dans la voix. Vous prendrez bien un peu de pain? Non plus, a-t-il lancé du tac au tac, et là, il était carrément submergé par l'émotion. Ouf. Je prendrai quand même une rondelle de citron, a-t-il concédé. Une rondelle de citron, voilà où Martin en est arrivé. Et là, il le regrette amèrement. C'est sa balance qui lui a annoncé la mauvaise nouvelle ce matin. Certains se rendent malades quand ils changent de décennie. Lui, c'est quand il passe une dizaine. Heureusement, le coup de bambou n'a pas duré bien longtemps. Rapidement, Martin le combatif a repris le dessus. Et quelques minutes plus tard, il a lancé au débeauté. Ok, je fais kilo, mais je fais pas ta taille, Maxime. Alors moi, en homme de précision que je suis allé calculer nos IMC respectives. Le résultat est 26-26 pour Martin, donc il est juste dans l'orange, et moi je suis à 22-8, donc je reste dans le vert, Martin. Donc tout va bien encore.
Alors, c'est pas beau, Maxime, déjà. C'est pas beau parce que tu sais que c'est pas facile de franchir une dizaine. Et ce matin, j'avais jamais vu le 9 apparaître sur ma balance, balance digitale, je précise. Et quand j'ai vu le 9 apparaître, c'est vrai que tout s'est un peu, mon monde s'est écroulé. Et que tu te réjouisses de ça et que tu en fasses une introduction au Stream Team, je trouve ça bas. Et tu as d'ailleurs la chance que je ne sois pas susceptible parce que là, l'émission pourrait se terminer.
Alors, dans tout ce que tu viens de dire, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est ta précision sur la balance digitale. Qu'est-ce que ça change que ce soit une balance digitale?
Bah, parce que tu sais, quand il y a l'aiguille, tu peux te dire, ouais, mais attends, là, c'est moyennement précis. Là, le constat, il est, voilà, c'est 90-0-0. Voilà, ouais, c'est la première fois que je passe la barre des 90. Et je dois dire que, pourtant, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour perdre du poids. Je fais du sport, etc., mais j'y arrive pas.
Mais tu sais, après, la balance que là, à 90, c'est comme quand tu fais les trucs dans les fêtes foraines pour mettre des coups de poing. Tu sais, l'aiguille, elle part très vite de l'autre côté.
Mais t'es un enfoiré. Parce que moi, je vais pas revenir sur tes problèmes digestifs, Maxime, pendant, parce que lui.
Ah bah, t'as
voulu parce que Maxime a quand même dit, moi je peux pas bouffer gras parce que je vieillis, plus j'ai du mal à digérer.
Ah oui, non mais c'est les piments, j'adore ça, mais les piments, je peux plus, voilà, c'est l'âge, voilà. Moi c'est les dizaines qui me perturbent, toi c'est les dizaines de kilos, voilà. Donc moi c'est les dizaines en âge, voilà.
En juin, j'espère que ça s'arrêtera là, tu vois.
De quoi?
J'espère que je vais pas passer la dizaine d'après, serait même plus un coup.
Ah bah là, on fait une émission spéciale. Hein. Bon. Comme toutes les semaines, on va quand même parler football, parce qu'on est là a priori pour ça. Il faudrait faire un jour le décompte des intros et des sujets touchés dans les intros. Je pense que la bouffe doit être à 40-50% à peu près.
Et parce que c'est ça qui nous fait vivre, Maxime. C'est le foot et la bouffe.
Au propre et au figuré.
Exactement. Ouais. C'est vrai.
On vit pour manger.
Exactement. De quoi on va parler, Maxime?
On va parler évidemment de l'équipe de France. On va parler des Bleus. Vous le savez, l'équipe de France peut décrocher dès samedi sa qualification pour la Coupe du Monde au Qatar en 2022. La Coupe du Monde, c'est dans un an. C'est loin, mais c'est maintenant que ça joue. Si la France bat le Kazakhstan samedi au Parc des Princes, elle sera au Mondial. La question est la suivante, c'est de savoir mais quelle équipe de France va jouer face au Kazakhstan, et notamment la question du piston droit, puisque on sait que Pavard ne fait pas l'affaire. Alors avec Martin, on s'est demandé, mais est-ce qu'il ne faudrait pas tout changer carrément et tenter Kingsley Coman dans le couloir droit.
Deuxième sujet, vous savez, Paul Pogba s'est blessé à l'entraînement. C'est un vrai coup dur pour l'équipe de France parce que, une nouvelle fois, le duo Kanté-Pogba ne pourra pas être aligné ensemble. Et on va se demander avec Maxime s'il ne serait pas temps, là, tout de suite, maintenant, de lancer Tchouaméni plutôt qu'Adrien Rabiot. Ce sera le deuxième sujet. Et on terminera, non pas avec l'équipe de France, mais avec le Paris Saint-Germain directement, Maxime.
Ouais, Paris Saint-Germain et un peu le Bayern Munich, puisque Ulionès en a remis une couche sur le Paris Saint-Germain, évidemment. Il a parlé de l'argent de merde du PSG. Toujours ces attaques, ces mêmes attaques envers le financement du Paris Saint-Germain et de City, d'ailleurs. On va se poser la question, qu'est-ce que Ulionès a contre le PSG et est-ce qu'il n'en a pas marre de taper tout le temps sur le PSG et sur City? On essaiera de décrypter tout ça en fin d'émission.
Exactement. On se lance, Maxime, on y va ?
Bon, écoute, à part si t'as autre chose, je sais pas, on peut faire quelque chose. On se boit un petit thé ?
Ouais, alors moi, ce sera de l'eau, juste de l'eau.
Avec une rondelle de citron ?
Exactement, la rondelle de citron, c'est toujours bon. Kingsley Coman, Maxime ?
Allez, c'est parti.
Allez, vous le savez, le point faible de cette équipe de France, qui est considérée comme telle, en tout cas dans le 3. On va l'appeler comment, le 3-4-3 de Didier Deschamps. C'est effectivement ce poste de piston droit. Benjamin Pavard en est pour le moment le titulaire et le titulaire indiscutable. Indiscutable, c'est ce dont on va discuter justement, puisqu'il reste quand même sur des performances qui sont moyennes, si on est gentil. Et lui-même, à Canal+, le mois dernier, a avoué que, ouvrez les guillemets, mon poste, c'est défenseur central, ça l'a toujours été. C'est là où je me sens le plus à l'aise, où je prends le plus de plaisir, c'est là où je me trouve le meilleur. Donc la question, elle est simple, Maxime. Est-ce qu'il ne faudrait pas tenter autre chose, profiter justement du Kazakhstan et de la fin de cette qualification à Coupe du Monde? On rappelle que les Bleus ont un pied et quatre orteils au Qatar, tenter autre chose, trouver une alternative à Benjamin Pavard qui n'est pas à l'aise dans ce poste de piston droit. Et la première solution qui nous vient en tête, en tout cas à moi, je développerai peut-être après toi, Maxime, mais c'est de mettre tout simplement Kingsley Coman dans ce couloir droit pour essayer d'apporter un peu de vie à un couloir qui est très souvent quand même éteint.
Non mais vas-y, démarre, c'est mieux puisque c'est ton plan. Développe-le brillamment.
Brillamment, je ne sais pas, mais en tout cas, si, brillamment. On va pas se raconter d'histoire. Alors, pourquoi Kingsley Coman ? Déjà, on ne se poserait pas la question s'il y avait un joueur qui avait un volume aussi complet, on va dire, que celui de Théo Hernandez à gauche, c'est-à-dire qu'il attaquait aussi bien qu'il défendait. Là, le problème, c'est qu'on a, sur les derniers mois, et en tout cas, chaque fois que Didier Deschamps a utilisé cette défense à 3, un Benjamin Pavard qui est emprunté offensivement, mais qui aussi, derrière, n'apporte pas les garanties suffisantes. Alors, on va se souvenir notamment de la première mi-temps face à la Suisse, où l'équipe de France jouait dans ce système-là, de la rentrée des derniers matchs de la Ligue des Nations, où il a été aussi en difficulté. Donc, force est de constater que pour le moment, c'est une solution qui n'existe, qui ne donne pas satisfaction. Pourquoi Kingsley Coman, moi, ça peut me séduire, et ça me séduit même sur le papier. Bon, déjà, face au Kazakhstan, c'est-à-dire une équipe qui offre quand même une opposition qu'on pourrait qualifier de...
relative.
D'abord parce qu'il va animer ce couloir droit, c'est-à-dire qu'offensivement on a à peu près aucune raison d'être inquiet. On sait que Coman fait des différences, on sait que Coman il apporterait quelque chose sur ce côté droit offensivement, et défensivement il n'a pas la légèreté d'un Payet ou d'un Kylian Mbappé. On sait qu'il est rigoureux dans le replacement. Alors bien sûr, c'est différent de jouer de piston parce que il faudra davantage surveiller ses arrières, et il faudra surtout être constamment dans le rouge, c'est-à-dire faire des allers-retours constants. Mais il y a un exemple d'une grande nation du football qui nous prouve que c'est possible. La Belgique a fait de Yannick Carrasco son piston, et donc ça a fonctionné. Ferra Carrasco nous dit qu'il n'est pas forcément, qu'il préfère jouer ailier gauche, que c'est son poste de prédilection. Malgré tout, Martinez lui a fait confiance dans ce poste-là, l'a modelé pour ce poste-là, et aujourd'hui, Carrasco fait un piston tout à fait honorable avec l'équipe de Belgique. Finalement, c'est comme avec Matuidi lors de la Coupe du Monde 2018, c'est-à-dire qu'on le met peut-être un petit peu à contre-emploi, mais c'est pour donner la liberté aux trois de devant. Et c'est pour tout simplement trouver aussi une alternative à ce Benjamin Pavard qui, force est de constater, et ça, Maxime, tu ne pourras pas me contredire, ne donne pas satisfaction à ce poste-là.
Non, il ne donne pas satisfaction, et on le dit depuis la Coupe du Monde 2018, qui est un, on va dire, un gigantesque leurre. Alors, il ne fait pas une Coupe du Monde, une mauvaise Coupe du Monde, mais il ne fait pas une bonne Coupe du Monde non plus. Il y a ce but qui a un peu embelli tout. Et quand les sommets sont arrivés pour l'équipe de France en 2018, notamment la demi-finale face à Hazard ou la finale, bah, on voyait que Pavard n'était pas forcément dans son assiette. Alors lui, il dit que c'est parce que ce n'est pas son poste. Ok, mais malheureusement, pour lui, c'est la règle de l'équipe nationale. Et évidemment, je vais rappeler qu'un très 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 grand joueur n'a pas joué à son poste pendant des années et a fait une immense carrière sur le côté droit de la défense, c'est Lilian Thuram. Et qu'à un moment, bah, c'est un peu la règle malheureusement. Quand dans l'axe, il y a possiblement meilleur que vous, et bah, vous laissez votre place et vous jouez. Donc déjà, c'est une bonne chose. En fait, le vrai problème, c'est même pas tellement un problème de 4-4-2 ou de 3-4-3, c'est qu'à droite, pour l'instant, on n'a pas trouvé. Voilà. Alors, l'option Coman, pourquoi pas? Mais je pense que Deschamps ne le laissera pas. Tu l'as dit juste avant, Deschamps s'en fiche de la symétrie, puisque une équipe asymétrique, il en a battu une et il a gagné la Coupe du Monde avec. C'était Matuidi sur le côté gauche, ce fameux ailier gauche un peu hybride qui n'en était pas vraiment un, mais qui permettait, hors placement, d'avoir plus de solidité et un milieu de terrain équilibré. Je pense que ce qui compte aux yeux de Deschamps, c'est plus l'équilibre que la symétrie. Tu peux imaginer faire pareil avec Coman à droite, c'est-à-dire repasser à 4 derrière, coulisser. Mais je pense que Deschamps, c'est pas Sampaoli et il va pas tenter des coups comme ça où on fait coulisser un joueur au milieu, etc. Voilà. Au niveau offensif, Coman aime bien partir de loin parce qu'il a les qualités, mais il peut aussi partir sur des tout petits appuis. On l'a déjà vu partir arrêté. Il n'a pas besoin d'avoir non plus le vent dans le dos. Donc, face à une équipe regroupée, en effet, ça peut fonctionner. Je pense que tu le mets face au Kazakhstan, offensivement, j'ai bien offensivement, c'est pas un problème. Il n'a pas forcément besoin de beaucoup d'espace pour faire des différences et déborder. Donc ça irait. Maintenant, je pense que là où on fait une erreur, c'est l'aspect défensif. C'est-à-dire que on se dit, ok, il accepte de revenir. Mais à un moment, défenseur, c'est aussi un métier. Et c'est pas parce que je me replace que je suis un bon défenseur. Un défenseur, c'est, comme je dis, c'est un métier. Je pense qu'il est plus difficile pour un attaquant de bien défendre que pour un défenseur de bien attaquer. Voilà. Parce qu'il faut démonter ce qu'il y a de plus dur en face, c'est-à-dire forcément les joueurs offensifs. Et s'il se retrouve demain face à un joueur d'un calibre certain, d'un très bon dribbleur, d'un des meilleurs joueurs du monde, je pense qu'il serait en difficulté. Et ça mettrait aussi l'équipe de France en difficulté. Et je rajoute quelque chose. Faut pas oublier aussi que ces postes-là, alors aujourd'hui on parle de piston, voilà, aujourd'hui la mode c'est de parler de piston. Il y a 5 ans on parlait encore d'arrière gauche, d'arrière droit au sein d'un 3-5-2. On dit bien arrière gauche, arrière droit, et c'est pas un hasard si 90% de ces joueurs-là qui sont ces fameux pistons sont en général des défenseurs de formation parce que l'important c'est aussi de défendre. Moi ce qui me fait peur en tentant ça, c'est deux choses. C'est si tu le mets sur un côté là, il faut quand même une caisse incroyable. Parce que tu passes ton temps à faire l'essuie-glace. Et on voit bien que, par exemple, Pavard ne fait pas beaucoup l'essuie-glace puisqu'il ne monte pas. Il reste à défendre. Si Coman veut attaquer, il va falloir monter, il va falloir descendre. Il va falloir monter, il va falloir descendre. Alors, il aurait peut-être Griezmann pour un peu l'aider, le suppléer. Mais je pense qu'il pourrait potentiellement perdre en lucidité. Offensif, ce serait gênant. Défensif, ce serait très, très embêtant. Et après, ma deuxième limite, c'est que je pense simplement que dans un grand tournoi, ça ne tient pas le choc. C'est-à-dire que quand tu vas arriver en demi-finale face au Brésil, par exemple, je pense que si tu as Coman en piston droit, puisqu'il ne faut pas dire arrière droit, ça serait très compliqué. Donc je pense que c'est un truc qui se tente, mais ça n'a pas d'avenir pour moi.
Et si c'est un avenir, si tu joues avec Coman piston droit jusqu'à la demi-finale et qui t'amène en demi-finale de Coupe du Monde,
Oui, mais non.
Avec ces calculs-là, le dernier Euro, on s'est craché, l'équipe de France s'est craché en huitième de finale avec un Pavard qui n'avait pas les idées claires. Qui n'apportait pas suffisamment aussi offensivement. Moi, je pense que, de toute façon, en compétition internationale, le dernier Euro est un exemple contraire, mais malgré tout, les premiers tours en Coupe du Monde et même le huitième, généralement, tu joues quand même contre des équipes où tu es champion du monde, donc tu domines le jeu, donc tu as la possession, donc c'est à toi d'apporter le danger. Et je pense qu'avec un Coman, au moins, tu es avec un joueur qui t'apporte une certaine sécurité offensive, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Pavard, non seulement offensivement il pèse pas grand-chose, même si il faut se souvenir de sa passe décisive, me semble-t-il, contre la Belgique en Ligue des Nations, mais offensivement il le dit lui-même, et qui aussi, et c'est ça qui est le plus gênant, si défensivement il était absolument irréprochable, si ses adversaires directs ne prenaient pas la plupart du temps, j'allais dire systématiquement, mais la plupart du temps, le dessus. Moi, je pense à Hazard, je pense à Di Maria pendant la, pendant la Coupe du Monde. Mais... je pense à tous ces joueurs-là, à Perisic, qui l'ont fait vivre l'enfer. Et je me dis qu'au moins, si tu as un joueur déjà qui t'apporte et qui oblige aussi les défenseurs adverses, voire le milieu offensif adverse à défendre, tu gagnes déjà.
Oui, mais j'en suis même pas sûr. Mais là, ce que tu es en train de décrire, à raison, c'est que Pavard est un problème, mais moi je pense que Coman n'est pas la solution. Voilà. C'est qu'il y a un vrai problème à droite. C'est que c'est
en tout cas, tentons-le. Pour moi mais, il faudrait le tenter.
Mais après, de dire tu vas aller jusqu'en demi-finale, et en demi-finale, tu fais quoi?
Tu t'adaptes. Mais déjà, de toute façon, c'est un coach qui s'adapte.
Alors, je vais te dire un truc. On a gagné une Coupe du Monde en ayant une équipe type à partir du deuxième match. On a perdu un euro parce qu'à un moment, après le premier match, Deschamps a décidé de changer. Alors que finalement, c'est l'équipe qu'il avait face à l'Allemagne aurait sûrement fait aussi bien, enfin, même mieux face à l'Hongrie. Et peut-être qu'on évitait des problèmes. Et quant au cas Pavard, c'était plus qu'il était à la ramasse parce qu'il avait pris son carton et qu'il fallait sûrement le faire sortir. Son carton, son choc, évidemment, pas carton jaune, contre l'Allemagne, voilà. Moi, je pense que tu peux difficilement dire... Il y a des bascules dans une grande compétition. Le huitième de finale en est une. Le premier tour, c'est aussi ça. Il y a quelque chose où tu peux encore essayer. Je pense qu'en demi-finale, tu n'en es pas à dire « Je sors mon arrière latéral droit pour mettre quelqu'un d'autre. » L'exemple de la Belgique 2018, Meunier suspendu, ils perdent leur latéral droit. Alors là, ils n'ont pas le choix, mais ils se retrouvent dans une situation qui était pas très bonne pour eux. Et je me souviens, Roberto Martinez, moi, m'en a parlé en interview, il dit, bah voilà, nous, on a eu ce problème-là, on a essayé de réparer ça, trouver du latéral. Moi, je pense que surtout, le problème aujourd'hui, l'équipe de France, c'est de trouver le type qui fera le job à droite. On a essayé Koundé, ça n'a pas marché. Je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas un arrière-droit qui fasse le job, qui soit au moins juste, j'allais dire, pas moyen, parce que quand tu joues en équipe de France, il faut être un peu au-dessus de ça, mais quelqu'un qui fasse l'affaire. Ce qui tombe bien, c'est que tu as un an, si les Bleus se qualifient contre le Kazakhstan dès samedi, il y aura quasiment un an jour pour trouver ce type-là qui, on l'a vu à la dernière Coupe du Monde, a été trouvé trois semaines avant. Donc, faut pas avoir peur de ça. Est-ce qu'il faut tenter Koeman? Moi, je le dis, pourquoi pas. Mais je pense juste que ce n'est pas une solution.
Mais d'accord,
d'avenir.
Alors
ben, je pense que c'est... Non, parce que je pense que ce n'est pas une solution. Je serais curieux de voir.
Oui, je ne dis pas que c'est une solution. Je dis que c'est une alternative qu'il faut tenter dans la mesure où la solution qu'on a en face de nous n'est pas convenable. Donc, de toute façon, on a...
D'accord,
je veux dire, Benjamin Pavard, on l'a suffisamment vu en compétition, en match amical, dans une défense à 4, même si dans une défense à 4, je mets un peu plus de... Je t'en permets propos parce que franchement, dans une défense à 4, il tient la route. Dans une défense à 3,
je pense qu'on
le voit, on voit qu'il est perdu, il est complètement perdu. Je rappelle juste que le match contre l'Espagne, il se fait engueuler par Pogba, on l'a vu. Ouais. Et après, du stade, on voit aussi un moment... sur une relance de Lloris, il se fait pourrir par Lloris. Quelques minutes après, il se fait sortir par Deschamps.
Mais ça, c'est sûr. Mais je ne suis pas sûr que Coman ne serait pas moins paumé. Et je pense surtout qu'on se dit, ouais, c'est un attaquant, donc il va obliger à défendre. Oui, mais c'est peut-être aussi le mec en face qui va l'obliger à défendre. Et si tu l'obliges trop à défendre, alors, possiblement pas le Kazakhstan, encore une fois, mais je pense que face à une équipe... Enfin, je pense que c'est les limites du bricolage. Si on en est là, c'est qu'on n'a pas grand-chose en magasin et que c'est inquiétant. Et Coman, je pense aussi qu'en le faisant jouer là, Coman, tu le fais jouer aussi potentiellement trop loin du but. Et si tu finis par trop le faire défendre, tu vas perdre ce qui fait sa force et sa lucidité offensive. Donc je pense qu'en effet, je le répète, je pense qu'on a un problème Pavard, mais je pense que Coman n'est pas la solution.
Bon, on ne va pas réussir à nous mettre d'accord. On verra ce que décide Didier Deschamps.
Après, je le répète, moi je serais très curieux de voir ça. Ça m'intéresserait, mais je pense que ce n'est pas une solution viable. Et surtout, j'aimerais pas que le leurre du Kazakhstan fasse croire que... on tient quelque chose parce que Coman a été bon contre le Kazakhstan.
Bien sûr, bien sûr. Mais ça a marché. Enfin, ça a marché. Si, ça marche plutôt pas mal avec Carrasco en Belgique. Et la Belgique, c'est une nation au standing et aux ambitions qui colle plutôt à celle de l'équipe de France.
Il n'y a plus qu'à essayer Griezmann à ce poste-là. Il a la caisse. Il aime défendre.
Il est trop précieux devant, Maxime.
Bah oui,
c'est aussi bien
évidemment.
Quoi.
Ah oui, ça oui.
On passe au deuxième sujet avec un autre duel, quelque part, qu'on va décortiquer. Paul Pogba est absent de ce rassemblement, ou du moins il l'a démarré, mais il ne le finira pas puisqu'il s'est blessé à l'entraînement. Plusieurs semaines d'arrêt pour le milieu de terrain de Manchester United. Et donc, on n'aura pas la paire Kanté-Pogba, la paire indiscutable, incontournable de l'équipe de France. C'est-à-dire que ces deux-là, ils sont souvent ensemble en tournoi, mais quand il n'y a pas de tournoi, eh ben, c'est soit l'un, soit l'autre qui est blessé depuis quelques mois. Oh là là, la paire, il n'y en a pas deux, Maxime. Tu as perdu tous les millennials, là. Je ne sais pas s'il y en a déjà.
Mais encore, on n'a pas encore parlé de Baguepi, c'est pour la fin.
C'est pour la fin, la baguette baguette est piquée, pétrie dans mon fourni. Tout ça pour dire que voilà, il y a l'absence de Pogba. Il va falloir faire en sorte pour Didier Deschamps de pallier à ce problème-là. Il y a plusieurs profils qui sont devant nous. Il y en a un qui crève les yeux quand même puisqu'il a fait une Super Ligue des Nations et même depuis qu'il est arrivé en équipe de France, c'est-à-dire à la rentrée, il ne fait que des bonnes choses, qu'il soit titulaire ou qu'il rentre en cours de jeu. C'est Aurélien Tchouaméni, le milieu défensif de l'AS Monaco. Maxime, est-ce que c'est le moment sur cette fin d'année, sur ces deux derniers matchs de l'année 2021, Kazakhstan-Finlande, de lancer Tchouaméni et en l'absence de Pogba, de Kanté, le mettre titulaire et donc d'en faire la troisième solution au milieu de terrain?
Bah oui, tout simplement, ma réponse est simple. Je pense que c'est le moment de lancer Tchouaméni. Didier Deschamps répète allègrement au fil des rassemblements qu'il ne juge pas en fonction de la carte d'identité. Sous-entendu, il ne juge pas en fonction de l'âge du joueur, du nombre de sélections, mais de son talent ou de ce qu'il apporte. Moi, ce que je vois depuis qu'il est là, Tchouaméni, dès ses premiers pas à Clairefontaine, même en conférence de presse, c'est quelqu'un qui semble avoir la tête sur les épaules, ça serait plus embêtant. Et à 21 ans, 5 sélections, une titularisation, je le vois déjà comme un recours, tout simplement. Pogba serait là, j'aurais très envie de voir Pogba et Kanté parce que évidemment c'est le duo le plus complémentaire et le plus intéressant pour les raisons, les qualités de chacun. Et puisqu'il n'est pas là, Pogba, moi j'ai envie de voir Tchouaméni qui est un joueur qui peut un peu lui ressembler dans sa qualité pour avancer le ballon, pour apporter offensivement. C'est pas le même style, c'est pas les longs ballons, la qualité de passe exceptionnelle de Pogba de cette dernière année en équipe de France tout au moins. Mais n'empêche qu'il a quelque chose et je pense qu'il a aussi cette sérénité. Et j'ai pas l'impression qu'en mettant Tchouaméni sur le terrain contre le Kazakhstan au milieu de terrain, on aurait quelqu'un qui serait écrasé par l'événement. Pas du tout, on l'a vu lors de ses premières capes. Pourquoi Rabiot à la place? Alors, les seules raisons que je verrais de mettre Rabiot à la place, c'est peut-être une orientation différente du jeu, parce que Rabiot est gaucher, ça peut écarter sur le jeu, sur sa relance au milieu de terrain, sa façon d'ouvrir le jeu, parce qu'il a plus de sélection, il en est à 22, parce qu'il est plus vieux, parce qu'il a 26 ans. Après, Adrien Rabiot, ça reste un formidable footballeur, j'allais dire, de confort. C'est pas un reproche, simplement que quand l'équipe va bien, il peut aller excessivement bien. Portugal-France, son match référence sûrement novembre 2020, il me semble. Bah, ça va faire un an jour pour jour, ou novembre 2019, je ne sais plus, je suis perdu avec le Covid. 2020, l'Allemagne à l'Euro pour un match où il est au diapason, voilà. Mais quand ça va moins bien, je n'ai pas l'impression que c'est Rabiot qui va sortir les bleus de l'ornière, parce que ce n'est sûrement pas dans sa manière d'être, dans son caractère. Ce n'est pas un leader dans ce sens-là. C'est un joueur qui joue sa partition, et quand il le fait très bien, c'est plutôt pas mal. Alors évidemment, la situation de l'équipe de France contre le Kazakhstan, a priori, au coup d'envoi, est pas malaisée. Loin de là, il suffit de gagner. 125e nation mondiale à la FIFA. Honnêtement, il n'y a pas de quoi avoir peur. N'empêche que j'aimerais bien voir justement Tchouaméni, parce que je pense que l'avenir lui appartient et que j'aimerais bien déjà le voir. Pogba, quand il est arrivé en équipe de France, Didier Deschamps n'a pas hésité à le lancer directement. Ça lui a même valu un carton rouge face à l'Espagne lors de sa deuxième sélection. Alors vous allez me dire, ce n'était pas la même époque, il n'y avait pas le même vécu, il n'y avait pas les mêmes joueurs devant. N'empêche, il n'a pas hésité. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il retient encore de lâcher Tchouaméni. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il sait, qu'il sent, que l'on ne voit pas. C'est aussi l'avantage d'être sélectionneur, de vivre avec les joueurs pendant 5 jours quand ça se déroule bien dans les rassemblements. Mais maintenant, moi, j'ai très envie de le voir. Et si je devais, moi, Maxime Dupuis, choisir demain, je mettrais Tchouaméni titulaire avec Kanté.
Je suis à peu près d'accord avec tout ce que tu as dit, et notamment sur Tchouaméni et la facilité avec laquelle il s'est adapté à cette équipe de France et même la facilité avec laquelle il a forcé le destin de l'équipe de France. Il faut se rappeler de son super match. Sa seule titularisation, il me semble, c'est la finale de la Ligue des Nations, donc face à l'Espagne, où il a été vraiment très, très bon. C'est un joueur qui a de la personnalité. S'il fallait le définir, pour moi, ce serait ça. Et comme Pogba, hein, c'est vrai que voilà, il est intelligent. Et après, sur Rabiot, bon, Rabiot, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est en grosse difficulté en ce début de saison à Turin. Allegri lui a vertement remonté les bretelles le week-end dernier. Je pense qu'en termes de management, peut-être que Didier Deschamps maintiendra encore Rabiot pour la simple et bonne raison que voilà, il y a quand même des statuts en équipe de France. C'est-à-dire qu'Adrien Rabiot, oui, il n'a que 22 sélections.
22.
Il n'a que 22 sélections. Il a eu un gros trou, on le rappelle, mais sur ces derniers mois. Depuis qu'il est revenu, on va dire, c'est quand même la troisième option au milieu de terrain. sachant que Tolisso a un peu disparu de la circulation du fait de sa blessure. C'est un peu la troisième option au milieu de terrain. Et lui mettre Tchouaméni, le faire démarrer Tchouaméni demain, c'est aussi rétrograder Rabiot. Ce serait un tout petit peu dur. C'est vrai que Rabiot en équipe de France, il est très, très inconstant, mais un peu à la manière de sa carrière. C'est-à-dire dans les grands matchs, où, voilà, il va avoir des fulgurances, comme tu le disais très bien, mais sur la constance, sur la régularité, c'est vrai que ça pose question. C'est un peu à l'image de son euro qui est un coup oui, un coup non. Moi, je retenterais peut-être quand même, j'essaierais de remettre Rabiot sur les rails. Pour ces questions-là, mais il me semble évident qu'en même temps, l'avenir appartient à Tchouaméni. Et qu'effectivement, quand Didier Deschamps le lancera, alors évidemment, il y a Pogba et Conte devant, mais quand il choisira de faire de Tchouaméni vraiment la troisième option, voire la deuxième quand un des deux n'est pas là, il rendra plus les clés, Tchouaméni, parce qu'il y a comme une évidence, en fait. Ça fait partie de ces joueurs-là où, quand il démarre, eh ben, il y a une évidence comme ça qui s'impose aux yeux de tous. Avec les limites qu'on connaît, parce qu'avec Camavinga, on avait un peu la même analyse après les débuts de réussite de Camavinga et aujourd'hui il n'est plus là. Mais malgré tout, tu sens que ce Tchouaméni, ouais, il a un truc en plus. C'est peut-être, allez, encore un tout petit peu tôt. Pour moi, vis-à-vis de Rabiot.
Toute proportion gardée, évidemment, de par leur qualité, de par leur vécu, de par la situation des Bleus, ça me fait penser un peu. Toute proportion gardée, j'ai bien dit, on n'est pas encore là. À la situation de Patrick Vieira quand il est arrivé en équipe de France. C'est-à-dire que très vite, on voit que c'est un joueur très, 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 très fort. Et sauf que devant lui, il y a Deschamps, il y aura Petit après la Coupe du Monde. Et pendant un moment, on sent que c'est difficile de passer devant les autres. Voilà. C'est très difficile. Aujourd'hui, Tchouaméni, il serait derrière juste Pogba et Kanté, je te dirais. Bah oui, non, on ne peut pas le faire passer devant. Maintenant, ne pas hésiter à faire passer devant Rabiot, je pense que ça se fait, parce qu'en plus, comme tu l'as dit, c'est l'Espagne, le dernier match, c'était lui. Alors évidemment, Rabiot avait le Covid, et Rabiot, c'est pour ça qu'il n'a pas joué.
Il était forfait. Okay.
Et c'est souvent injuste de dire ça, mais n'empêche qu'il y a quelque chose qui, aujourd'hui, crève les yeux avec Tchouaméni, et que j'ai très envie de voir. Voilà. Alors Camavinga, c'est pareil. D'ailleurs, il faudra se poser la question du milieu de terrain des Bleus, parce que si tout ce petit monde est presque bien en forme avant la Coupe du Monde 2022, sur le carreau, il va y avoir des victimes et des victimes de choix. Et un conseil à Adrien Rabiot, s'il a la chance de continuer à jouer alors qu'il n'est pas forcément dans la meilleure phase de sa carrière, qu'il ne fait pas forcément les meilleurs matchs qu'il fait avec les Bleus, bah, il aurait intérêt à vite redevenir bon sur le terrain avec les Bleus parce que ça va pousser très vite, très fort au portillon et la sortie pourrait arriver très vite en cas de contre-performance répétée.
C'est paradoxalement, effectivement, l'endroit du terrain, la zone de jeu où tu as peut-être effectivement plus de solutions, un vivier énorme, mais il y a un turnover permanent parce que c'est aussi un secteur qui a été exposé beaucoup aux blessures. Et finalement, tu n'as pas trouvé encore le profil d'un Matuidi. Et moi, quand je vois la première mi-temps, notamment face à la Belgique, je me suis fait cette réflexion-là, je me suis dit, on n'a pas remplacé Matuidi. C'est-à-dire que cette façon dont on prend les vagues, dont l'équipe de France en Ligue des Nations quand même, hein, et même à la rentrée, alors je parle même pas de l'Euro, est quand même très souvent en danger. Il y a presque un danger constant autour d'elle. Alors ça tient évidemment à la nouvelle architecture de cette équipe de France, cette droite devant, mais ça tient aussi au fait que pour moi, Matuidi n'a pas été remplacé, et ni Tchouaméni ni Rabiot n'ont évidemment ce profil-là. Tchouaméni, c'est effectivement plus un Pogba, et Rabiot dans ses qualités de guerrier, de je lâche rien, il est très très loin de Blaise Matuidi, donc. C'est un secteur effectivement qui est incertain, qui est mouvant, qui est très mouvant. Mais au milieu après, de tout ça, effectivement, il y a quand même l'évidence. Ouais.
Après, quand tu récupères Kanté, ça change les choses au niveau de l'équipe. Tu n'as pas Matuidi, mais tu récupères Kanté. Donc tu peux te permettre d'avoir un chouïa plus de liberté avec le joueur qui est à côté. Pogba Tchouaméni, c'est sûrement un peu plus compliqué sur l'équilibre que Pogba Kanté ou peut-être Tchouaméni Kanté. Donc, il va falloir voir. Et c'est pour ça, encore une fois, que contre le Kazakhstan, j'aimerais vraiment bien voir Tchouaméni. Bon, a priori, il y aura quand même une chance qu'on le voit à un bout de match, mais de le voir dans cette organisation-là, parce que on en a parlé avant, on parle des pistons, on parle de tout, mais il y a aussi ce qui se passe dans l'entrejeu. Et l'équilibre, il n'est pas seulement parce que vous avez trouvé quelqu'un à droite. Ça se trouve, en mettant Kanté dans cet orga-là, bah, peut-être que ça va aussi stabiliser, peut-être libérer un peu les énergies. Donc, autant faire le bon choix, et le choix, c'est Tchouaméni.
C'est un bon slogan de campagne présidentielle.
Je vais lui proposer Tchouaméni.
Ouais, tu peux lui proposer cette petite punchline, t'as dû mettre un certain nombre de jours à la trouver.
Une demi-seconde là.
Une demi-seconde, exactement.
La paire, il n'y en a pas deux, c'était pas de moi pour ceux qui ne savent pas.
Non, c'était pas de toi. C'était pas de toi, mais c'était brillant ça aussi.
Je crois que c'est Thierry Ardisson qui a inventé à peu près toutes les punchlines des années 80.
Et les années 2020, Maxime, c'est
quand
pour
c'est
ça.
Quand c'est trop de ces tropicaux, c'est lui aussi. C'est dingue, hein.
On passe au troisième sujet. Allez, Maxime, tu vas nous faire tous les génériques.
Est-ce que c'est trop d'ailleurs avec Lyonnais? C'est la question de ce troisième sujet. Est-ce que Lyonnais n'en fait pas trop? En fait, c'est le Bayern Munich, c'est par vague. Tu parlais des vagues successives qui arrivent sur l'équipe de France quand Mathieu était là. Lyonnais et un peu le Bayern, même si ça s'est calmé, a tendance à mettre des vagues successives et des petites gifles au Paris Saint-Germain et aussi à Manchester City, qui sont évidemment la cible privilégiée du Bayern Munich et surtout de Lyonnais, plus d'ailleurs que Karl-Heinz Rummenigge qui lui s'est un peu calmé. Martin, tu vas nous rappeler ce qu'a dit Lyonnais et pourquoi.
Lyonnais, président d'honneur du Bayern Munich, a complètement allumé le Paris Saint-Germain, comme à son habitude, j'ai envie de dire, avec cette petite punchline savoureuse. C'est ça qui me stimule, c'est de leur montrer votre argent de merde, ça ne suffit pas. Donc il ne rêve que d'une chose, Lyonnais, c'est éliminer le PSG de la Ligue des Champions, ou Manchester City d'ailleurs. Lyonnais qui se fait là le chantre du football propre, du football sans agent venu du Qatar. Maxime, la question elle est simple, en allumant le PSG, de qui se moque franchement Uli Hoeness?
Alors, si on était taquin, on rappellerait que Uli Hoeness a été condamné pour fraude fiscale pour 27 millions d'euros.
C'est pas être taquin, c'est des faits ça, Maxime.
Non mais c'est des faits, mais ce que je veux dire, c'est personnel ça. Ça, c'est ouais. Il fait ce qu'il veut avec son argent, c'est pas le Bayern de Munich. Voilà, c'est un classique, on va dire, du Bayern de Munich qui régulièrement, et c'est un peu moins vrai, on va dire, depuis quelques années. Pourquoi aussi? Parce que le Bayern Munich a trouvé un peu d'argent du côté du Qatar, notamment sur sa manche avec le sponsor Qatar Airways. Donc l'argent, forcément, il est un peu moins sale quand vous venez vous en servir. Maintenant, je trouve que, parce que je vais quand même me faire l'avocat du diable, en fait, le PSG versus le Bayern, City versus le Bayern, c'est la situation, j'allais dire, de la noblesse française il y a quelques siècles, l'aristocratie contre la bourgeoisie. C'est-à-dire que les aristocrates qui pensent que le pouvoir leur est dû, n'acceptent pas de voir les bourgeois arriver qui ont gagné leur argent différemment sur le commerce, etc. Il y a un peu de ça là-dedans, à ceci près que, autant je trouve que les clubs espagnols ne sont pas audibles quand ils viennent critiquer le Paris Saint-Germain, parce que quand on dit que le Paris Saint-Germain ou Manchester City n'a pas les mêmes règles que les autres, alors que ce sont des clubs, notamment les Espagnols, qui soit croulent sous les dettes au milliard, soit ont eu des largesses de la royauté espagnole il y a quelques décennies, je trouve que c'est un peu fort de café. Voilà. En revanche, c'est vrai que le Bayern, moi, personnellement, j'aimerais qu'il y ait plus de Bayern dans le monde du football. C'est un club qui est vertueux, qui n'a pas de dette et qui fonctionne avec son argent propre. Voilà. Son seul tort, c'est d'être surpuissant et d'écraser la Bundesliga parce que son modèle fonctionne bien, mais parce que c'est lié à cette forme, on va dire, d'aristocratie. Avec le Bayern, il n'y aurait pas de Super League. Voilà. Le Bayern est respectueux de tout ça. Voilà. Donc je trouve qu'il y a peut-être une meilleure façon de dire les choses que de dire ce qui me stimule, c'est avec votre argent de merde, de vous battre avec votre argent de merde. Voilà. Parce que là où il se fout un peu de nous, Lyonnais, du Paris Saint-Germain et tout le monde, c'est que l'argent de merde du PSG et du Qatar, donc il est bien content de le trouver pour mettre un sponsor sur la manche de son club. Parce que quand il y a beaucoup moins de monde pour investir, les pays du Golfe, eux, continuent à investir. Voilà. Qu'ils trouvent que les règles ne soient pas bonnes, qu'ils trouvent que, comme Rummenigge le dit, il faudrait respecter le fair play financier, que les conditions de concurrence ne sont pas équitables, ça, on est d'accord. Qu'un État puisse financer un club par rapport à d'autres, ce n'est pas forcément normal, il y a un déséquilibre en effet. Maintenant, il faut juste balayer un peu devant sa porte, et ça, Lyonnais ne le fait pas très bien. Alors maintenant, il est juste président d'honneur, donc c'est vraiment, pour le coup, comme le dit son titre, honorifique, mais c'est malvenu de dire ça.
Sur le site internet du Bayern Munich, on peut voir qu'il y a des partenaires économiques qui sont classés en plusieurs catégories. Il y a les principaux, c'est-à-dire Allianz, Adidas, Audi. Et puis, il y a un deuxième groupe avec les partenaires platine. Et Qatar Airways fait partie de ces partenaires platine. Il y a la presse allemande qui annonce qu'en gros, le deal, c'est 10 millions par an pour apparaître sur le maillot du Bayern Munich. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, c'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité quand même, Lyonnais. Ça, c'est une première chose. Il faut savoir aussi que le Bayern Munich, depuis 2011, va chaque année faire des stages du côté du Qatar. Ça, c'est autre chose. C'est et qu'il y a l'aéroport de Doha qui est aussi qui fait aussi sa pub dans le stade de l'Allianz Arena du Bayern Munich. Donc, ça fait quand même, voilà, où l'UNS, effectivement, faudrait d'abord qu'il apprenne à balayer devant sa porte. Moi, il y a autre chose qui me dérange, c'est quand il dit que, effectivement, que c'est difficile de concurrencer le PSG, que pour lui, c'est beaucoup plus compliqué, qu'en gros, Nasser, quand il veut un joueur, il va voir l'émir et lui dit, bah, je veux ce joueur, il l'a tout de suite, alors que lui, c'est plus compliqué, sous-entendu, voilà, il y a moins de moyens, etc. Sur les trois dernières années, le PSG a dépensé, alors, je parle que des indemnités de transfert, je parle pas de la masse salariale qui, effectivement, explose du côté du Paris Saint-Germain, mais malgré tout, c'est quand même, c'est quand même quelque chose qu'on peut comparer entre les deux clubs. Sur les trois dernières années, Paris a dépensé 240 millions d'euros sur le marché des transferts, en indemnité de transfert. Le Bayern, 274,25. Voilà, selon les chiffres très précis de Transfermarkt. Donc là aussi, si, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il est dans une espèce de caricature, les bons d'un côté, les méchants de l'autre, tout blanc d'un côté, tout noir de l'autre. Alors qu'il y a quand même des zones grises, alors qu'il faudrait apporter un peu de modération à ces propos-là. Moi, ce qui m'énerve un petit peu, c'est que voilà, le Bayern joue un peu les perles à morale sur ce coup-là, et comme tu le disais tout à l'heure, tous les six mois, quasiment, mais qu'ils sont pas non plus tout propres, tout propres. S'ils suivaient une ligne directrice claire et qui restait sur cette ligne de crête-là, je dirais chapeau, je dirais OK. Le problème, c'est que le Bayern aussi fait des compromis et que Lyonnais oublie d'en parler.
Non, mais c'est ça. C'est s'ils refusaient l'argent du Qatar, très bien. Et ce serait presque, comment dire, ce serait même remarquable au sens premier du terme. C'est-à-dire que ils ont des idées, ils vont jusqu'au bout de leurs idées. Le problème, c'est qu'ils ne le font pas. Après, comme tu l'as dit, là, le contexte de la phrase d'Onès, c'est un podcast sur sa vie. Donc je pense qu'il balance tout ce qu'il veut dire, etc. Parce que ça parle de lui.
Oui, mais il faut pas qu'il oublie quand même qu'il fait partie d'un.
Oui, enfin, voilà, oui, mais après, il est président d'honneur. Voilà, je pense que bon, maintenant, tu vois, c'est plus non plus. Mais au-delà de ça, tu remarqueras que les attaques anti-Paris Saint-Germain se sont un peu calmées parce qu'au Bayern, ils sont aussi des gens intelligents. Et l'argument qu'on est en train de sortir en ce moment sur Qatar Airways, ils en sont conscients. Donc voilà, ils ont mis un peu la pédale douce là-dessus. La déclat de Rummenigge, dont on parlait tout à l'heure, sur le fait qu'il explique qu'il faut des conditions concurrence plus équitables, il faut adapter le fair-play financier, etc. Il est pas en train. Il dit on a besoin davantage d'un retour à la rationalité. Il n'est pas en train de dire le PSG triche. C'est une manière de le faire comprendre. Mais ils se sont un peu calmés parce qu'ils ont vu qu'eux aussi, maintenant, ils avaient besoin aussi de l'argent qui venait du golf parce qu'aujourd'hui, c'est le principal pourvoyeur avec l'Asie de moyens pour les clubs dans une situation de crise dont le club du Bayern est aussi épargné. Pourquoi ? Parce qu'il a un fonctionnement assez vertueux. Le plus gros transfert de l'histoire du Bayern, je crois que c'est Lucas Hernandez, c'est 80 millions. Alors, ça fait beaucoup pour Lucas Hernandez, mais ce n'est pas beaucoup dans le football actuel, 80 millions d'euros. Donc c'est, là-dessus, c'est remarquable.
80 millions d'euros sur les deux dernières années. Il est arrivé il y a 2 ans, Lucas Hernandez.
Ouais. Oui, non, mais là, oui.
Pas non, beaucoup mais... qui sont au-dessus, sauf Kai Havertz peut-être, mais voilà. Et Lukaku.
Oui.
Mais...
oui, après, on peut très bien... Est-ce que 80 millions pour Lucas Hernandez, c'est plus cher que 15 millions par an pour Ramos? Non, mais voilà, c'est, on peut trouver, on peut sortir dans tous les sens. Donc voilà, donc, mais une chose est sûre, on ne réconciliera pas Uli Hoeness et le Paris Saint-Germain, a priori.
C'est sûr, ça c'est certain. On a fait le tour, Maxime ?
Bon, je crois qu'on a fait le tour.
Bon, bah, je vais pouvoir me faire un petit goûter, une petite crêpe au Nutella, comme d'habitude. Non, là, ce sera céleri, céleri radis.
Mais c'est donc, comme ça, cru, comme ça.
Ouais, cru, exactement. Bah, merci, Maxime. On se donne rendez-vous dès demain.
Ah oui, c'est vrai, oui. Bah oui.
Alors, pas pour un FC Stream Team, mais pour un débrief du match devant le Parc des Princes, un débrief du match des Bleus, France-Kazakhstan, qui sera retrouvé non pas en podcast, mais sur le site d'Eurosport.fr, où vous pouvez retrouver, je vous le rappelle, toutes les meilleures vidéos de cette émission. Donc, allez quand même faire un tour du côté d'Eurosport si vous nous écoutez simplement en podcast.
Et quel plaisir de couvrir un match de l'équipe de France au Parc des Princes.
Oui.
Parce que moi, ce sera ma première.
C'est vrai. Ben, moi aussi, ce sera ma première. La première fois que je vois l'équipe de France au Parc des Princes. C'est vrai. Puis le Stade de France, c'est un peu toujours la même chanson là.
Ouais, voilà.
C'est un joli stade, le Parc des Princes.
Ça change. Et puis là, on perd nos repères. Où sommes-nous assis? Qui a-t-il au buffet?
Et tu sais, dans un vieux couple, il ne faut pas qu'on s'installe dans une sorte c'est de ça. Monotonie. Donc, c'est peut-être pour nous qu'ils l'ont fait, ça d'ailleurs, Maxime. Exactement. On demandera à la FFF. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous donc samedi pour un débrief de France-Kazakhstan. Ou sinon, si vous nous écoutez uniquement en podcast, et ben la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team. On remercie Quentin, on remercie Simon pour la réalisation et les visuels de cette émission. On remercie Maxime pour son génie. C'est peut-être un peu fort.
Ouais, c'est un peu fort. Quand même.
Un petit peu fort. Là, on sent qu'il rentre de vacances, il est un peu rouillé, mais.
Non, mais non. La reprise d'équipe de France, c'est parfait.
C'est parfait, exactement. Ça te remet tranquillement sur les roulettes. Voilà. Tu mets les charentaises et t'es tranquille, t'es bien. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Salut.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.